Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
Vous savez, avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, il y a bien des gens qui se questionnent au sujet de leur placement, au sujet de bien des choses qui touchent l'économie au niveau personnel ou même au niveau commercial. Bien, pour être sûr de bien comprendre tout ça, on a décidé d'aller chercher quelqu'un qui s'y connaît énormément. Elle est économiste principale chez le mouvement Desjardins. Elle s'appelle Florence Jean-Jacob. Madame Jean-Jacob, bienvenue à Truck Stop Québec.
Merci de m'accueillir.
Madame Jacob, c'est quoi le titre? Vous êtes économiste principale. Est-ce que vous êtes dans les chiffres à journée longue?
Oui, c'est notre rôle, c'est de fournir des analyses de la situation économique, tant pour le mouvement Desjardins que ses membres particuliers, entreprises, que l'ensemble du public.
OK. Vous comprendrez qu'on touche beaucoup l'industrie du camionnage ici, mais selon ce que vous décelez, selon vos données, quelles sont les industries canadiennes qui sont les plus vulnérables à la guerre de tarifs de l'administration Trump de l'autre côté de la frontière?
Bien, le secteur le plus vulnérable en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est fabrication, le secteur manufacturier, parce que c'est vraiment, ces tarifs-là ciblent les biens qui traversent la frontière, des biens fabriqués, donc en grande majorité. Donc, si on regarde plus en détail les industries qui dépendent fortement des exportations aux États-Unis pour leurs revenus. Il y en a plusieurs, là, des sous-secteurs du secteur manufacturier qu'on peut penser aux produits du bois, aux produits métalliques, l'aluminium, oui. Mais aussi la fabrication de véhicules automobiles, de produits aérospatiaux, de machinerie. Donc, ça, ce sont les premières industries, je dirais, les plus exposées directement parce que les tarifs font en sorte que nos produits peuvent devenir moins attirants. Les tarifs américains, les produits canadiens peuvent paraître moins attirants. Donc, les Américains peuvent se tourner vers des alternatives et bouder en quelque sorte les produits canadiens, ce qui réduit les commandes pour les manufacturiers canadiens. Donc, ça, c'est les plus touchés en ce moment, mais faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui sont touchés de façon indirecte aussi,
oui.
Et notamment le transport et l'entreposage, mais aussi le commerce de gros, l'agriculture, l'élevage, les pêches et la foresterie. Donc, il y a comme un ensemble de facteurs là qui peuvent se mettre en branle en raison de ces tarifs-là.
C'est peut-être une grosse question que je vous pose là, Mme Jean-Jacob, mais est-ce que cette guerre des tarifs-là entre les États-Unis et le Canada ou un peu partout dans le monde pourrait devenir une récession chez nous éventuellement? Est-ce qu'on pourrait aller vers là ou des fois, on a des gens qui sont assez bons en termes de gestion d'entreprise, tout ça, de gestion de tous les jours et peut-être qu'on va se revirer de bord pour être capable d'éviter une récession? C'est quoi vos perceptions là-dessus?
C'est une bonne question. En fait, l'environnement est très changeant, incertain, puis on voit nos scénarios justement de croissance économique de façon régulière. Je vous dirais qu'en ce moment, on prévoit une légère récession au Canada pour deux raisons. Oui, il y a ce choc tarifaire sur lequel on n'a pas beaucoup de contrôle. Donc,
ouais.
En ce moment, ça nous est imposé. Mais le problème aussi, c'est que les changements fréquent de dire on a tel tarif, on change, on suspend, il y a une exemption, mais il va en avoir d'autres. Tout ce climat d'incertitude fait en sorte que les entreprises mettent sur pause des projets d'expansion, des projets d'investissement. Et là, ça, on commence à le voir. La confiance des entreprises est au plus bas, les intentions d'investissement ont chuté, les confiances des consommateurs aussi. Donc, en raison de ça, cette incertitude-là, je pense qu'on ne pourra pas éviter une légère récession en 2025 au Canada. Toutefois, selon nos prévisions, ça devrait se résorber en 2026, puisqu'on s'attend quand même à ce que l'administration américaine réduise les tarifs parce qu'ils vont commencer à avoir les effets négatifs dans leur propre économie. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on prévoit du côté de la croissance économique qui, malheureusement, on va avoir de la difficulté à éviter une contraction de l'activité économique, disons, au deuxième, troisième trimestre de cette année.
Oui. Quand on entend l'administration américaine dire on va souffrir un petit peu, mais après ça, vous allez voir, c'est de l'or qui va nous tomber du ciel, tout ça. Je ne suis pas économiste, là, Mme Jean-Jacob, mais je ne peux pas croire à quelque chose comme ça. En tout cas, je ne peux pas croire à un scénario comme ça parce que ben, on impose tout le monde, mais ça revient dans notre cour bien plus rapidement qu'on peut le penser.
Effectivement, nous, ce qu'on pense, c'est que le côté inflation, c'est-à-dire l'augmentation rapide des prix aux États-Unis, va commencer à se faire sentir. On voit déjà les anticipations d'inflation à un niveau inquiétant aux États-Unis, parce que là, on se rappelle que ces tarifs à l'importation, ce sont les entreprises américaines qui, okay, ultimement, les payent. Et donc, la facture va être transférée d'une façon ou d'une autre vers le consommateur, où il va y avoir des réductions de marge de profit des entreprises. Mais ça va comme faire mal à l'économie américaine.
Ouais.
Et c'est ça qui, ouais, nous fait croire que ça devrait réduire la durée ou l'intensité, du moins, de ces tarifs-là. Puis, il faut comprendre que l'objectif visé, ou en tout cas annoncé par l'administration, c'est de relocaliser la production manufacturière entièrement aux États-Unis. Le problème avec cette intention-là, c'est qu'il n'est pas possible de rapatrier tout rapidement. Ce sont des chaînes d'approvisionnement souvent intégrées entre le Canada, le Mexique, les États-Unis, qui sont là depuis des décennies. Donc, il y a quand même beaucoup de ces turbulences économiques qui sont peut-être sous-estimées en ce moment dans le discours qu'on entend du côté américain.
OK. Est-ce que le Canada, Mme Jean-Jacob, pourrait tenir longtemps s'il y avait une guerre tarifaire, mais de longue durée? On pense tout, elle a été remise quasiment à tous les mois. On a gardé quelques produits. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait tenir longtemps au Canada?
Bien, en ce moment, la bonne nouvelle, c'est qu'on a on bénéficie de l'exemption pour l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui fait en sorte que le tarif effectif, là, le vrai tarif auquel font face les produits canadiens est plus bas que ce qu'on avait craint. Donc, si les entreprises continuent de démontrer leur conformité puis augmentent le taux de conformité des exportations à cet accord-là, oui, je pense qu'on peut tenir encore assez bien. Toutefois, la crainte, c'est qu'il y ait de nouvelles annonces et que ça cible le Canada. Et ça, on a de la difficulté à le prévoir. Donc, je dirais que il faut se préparer que dans les 4 prochaines années, il va y avoir de l'incertitude, il va y avoir aussi du protectionnisme de, ouais, la part de l'administration américaine. Donc, il faut trouver des stratégies pour de réduire notre dépendance à ce marché-là. Mais si on l'exemption de la CEUM, là, cet accord-là perdure, ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canada. Mais on pense que la raison pour laquelle on pense que ça va pas durer des années, c'est vraiment ces impacts qui vont se faire sentir aux États-Unis même, qui pourraient voir eux-mêmes une légère récession, en tout cas une contraction,
ouais,
de leur activité économique.
Oui, effectivement. Dans votre analyse que vous avez récemment publiée, vous avez mentionné à quelques endroits dans l'analyse que le transport par camion serait touché, tout ça. J'entends des gestionnaires, Mme Jean-Jacob, qui disent « Je ne sais pas, avec tout ce qui se passe dans notre industrie, en plus de l'économie, bien, il y a plein de guerres au taux du mille et tout ça. Il y a bien des compagnies qui disent « Je ne sais pas si 2025, il va y avoir beaucoup de compagnies qui vont être capables de passer au travers. Et si oui, bien, elles vont être écorchées un peu. » Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que l'industrie du camionnage, malgré qu'on aura toujours besoin de camions, là, peut survivre à tout ce branle-bas de combat?
Il faut comprendre que l'industrie du camionnage, l'industrie du transport de façon générale est une industrie qui est très liée à la santé du commerce international. Donc,
Oui.
si le commerce diminue, les exportations entre le Canada et les États-Unis diminuent, qu'il y a une baisse de commandes, on va voir une réduction de la demande pour des services de camionnage transfrontaliers.
Oui.
Donc ça, c'est l'impact principal qu'on s'attend. C'est vraiment une réduction de l'activité de ce côté-là pour le camionnage. Les entreprises qui dépendent moins du commerce avec les États-Unis pourraient s'en sortir mieux, celles qui font davantage du commerce au sein du Canada. Mais oui, tu sais, on pense qu'il y aura des pertes de revenus, des compagnies peut-être qui étaient déjà fragilisées, qui vont avoir plus de difficultés. Et les contre-tarifs qui ont été annoncés par le Canada font en sorte que, de façon indirecte, ils pourraient avoir des coûts plus élevés, que ce soit des pièces et de la machinerie avec des composantes en acier, aluminium, par
Oui.
exemple. Et là, on parle aussi l'effet du dollar canadien plus faible,
Oui.
là, fait en sorte que le coût de l'essence, ceux qui vont acheter de l'essence aux États-Unis, bon, ça coûte plus cher. Donc, il peut y avoir une certaine hausse des coûts tout en ayant une baisse des revenus. Et ça, c'est une recette où les entreprises ont plus de difficultés. Mais il
Oui.
faut se rappeler qu'on en a déjà traversé, là. On a eu une crise, on a eu une récession en 2008-2009,
Oui.
durant la pandémie, où il y a eu des chamboulements encore plus importants dans les chaînes d'approvisionnement,
Oui.
et on s'en est sorti. Donc oui, ça risque d'être une année difficile pour l'industrie du camionnage. Puis il faut comprendre qu'il y a quand même beaucoup d'emplois en jeu aussi, là. C'est une industrie
Effectivement.
qui compte un nombre important d'emplois. Donc, c'est une industrie qu'on considère à surveiller parce que s'il y a une baisse dans la production manufacturière, une baisse dans le commerce international avec les États-Unis, indirectement et directement, là, ça va toucher cette industrie-là.
Est-ce que les entreprises ou les transporteurs qui maintiennent du transport à l'intérieur, soit de la province ou qui font de l'interprovincial, ça veut dire qu'ils restent au Canada, pourraient peut-être s'en sortir mieux? Là, il y a une vague de achetons canadiens, achetons local, puis tout ça, même qu'il y a sûrement eu une baisse dans ce qui était produit américain. Je pense que les gens suivent une forme de vague. Est-ce que les transporteurs qui restent uniquement de ce côté ici de la frontière pourraient s'en sortir un peu mieux?
Oui, je pense que oui, s'ils dépendent moins du transport avec les États-Unis, qui sont concentrés, disons, est-ouest, là, au sein du Canada, ou même des fois, c'est pour que les produits soient éventuellement exportés en Europe ou en Asie, là, via les ports de chaque côté du Canada. Donc, oui, effectivement, ceux qui dépendent moins des États-Unis s'en sortiraient mieux.
Oui.
Devrait avoir moins de réduction de la demande. Et comme vous dites, en ce moment, on voit même un certain élan pour accélérer le commerce interprovincial, ce qui
Oui.
pourrait bénéficier même. Donc, il y a des opportunités.
C'est sûr qu'on n'achètera pas des fruits comme des oranges, tout ça au Québec, mais les fraises vont commencer bientôt, bientôt dans quelques semaines pour pas dire quelques mois, puis on aura peut-être des produits locaux. Les maraîchers vont peut-être se servir du marketing actuellement présent pour dire, bon, ben regarde, on va étiqueter nos produits du Québec, tout ça. On aura peut-être un meilleur volume. Vous parlez des marges bénéficiaires aussi qui sont déjà faibles dans le secteur. Il y a certains transporteurs qui risquent la fermeture, selon vous?
J'ai regardé un peu plus en détail parce que c'est des moyennes vraiment pan-canadiennes qu'on a pour les
Ouais.
marges bénéficiaires. Donc, c'est quand même du cas par cas, puis c'est difficile d'isoler juste le camionnage. Je dirais que quand on regarde les sous-secteurs des transports, c'est pas vraiment ceux qui sont plus en difficulté, là. Il y a quand même, on s'approche de la moyenne des différentes industries. Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas, selon les entreprises, selon leur niveau de dépendance commerce avec les États-Unis. Et s'ils étaient déjà dans une situation fragilisée ou plus précaire en raison des turbulences, par exemple de la pandémie ou post-pandémie, ce sont plus celles-là qu'il va falloir surveiller. Mais j'ai de la difficulté à dire est-ce qu'on va perdre, tu sais, ou voir des entreprises mettre la clé sous la porte en ce moment parce que c'est vraiment du cas par cas. Puis je dirais que pour l'industrie du transport, on est autour de la moyenne de façon générale au Canada. Donc,
OK. On parle souvent du dollar canadien. Moi, j'ai toujours pensé, je ne sais pas si je suis dans le champ, mais j'ai toujours pensé qu'un dollar faible favorisait l'achat des États-Unis vers le Canada. Là, on sait bien que l'administration Trump veut plus ça, en tout cas, veut garder un peu plus de stock chez eux. Mais est-ce que le fait que le dollar canadien perde des plumes, là, je pense qu'il y a eu la semaine passée un petit regain, là, mais est-ce que ça peut nous aider ou ça fait aucun changement dans notre industrie?
Bien, ça a deux effets, là. Dans le fond, d'une certaine façon, je parlais d'effet des tarifs qui réduiraient la demande. Donc,
Oui.
nos produits canadiens seraient moins attractifs du point de vue des Américains. Le fait que notre dollar a perdu des plumes, comme je dis, c'est déprécié quand même de façon considérable depuis
Oui.
un an. Ça fait que ça atténue le choc tarifaire. Donc, ça vient compenser un petit peu, pas entièrement, mais ça atténue l'effet négatif des tarifs américains. Par contre, toutes les entreprises qui dépendent de produits américains, donc qui importent ou qui vont acheter, par exemple, comme je disais, de l'essence du côté sud de la frontière, ben là, l'effet sur leurs coûts est l'inverse. Donc, ça
Oui.
augmente les coûts pour l'entreprise. Donc, je dirais que l'effet pour le camionnage, il n'est pas clair si c'est plus positif ou négatif, là, parce que c'est plutôt neutre. On a l'effet des tarifs, on a le dollar faible qui compense un peu, puis ensuite, on a, bon, peut-être des coûts un peu plus élevés en raison de la devise. Donc, au net, c'est pas clair s'il y a un effet majeur.
Okay.
Et on s'attend quand même à un dollar autour de 70, 72 cents cette année, ce qui est assez faible, qui devrait quand même être un certain baume là, pour surtout les exportateurs.
Oui, effectivement. Je comprends que vous n'avez pas de boule de cristal, ni moi j'en ai une, mais est-ce qu'il y a des secteurs de l'économie qui pourraient très bien s'en tirer malgré tout?
Ben, faut se rappeler que quand même la majorité de l'économie est dans des secteurs qui sont pas directement exposés à la guerre tarifaire. On peut penser au commerce de détail, la
Oui,
construction,
oui.
l'immobilier. Le secteur public, c'est plus de 20 % de notre économie. Donc, tout ce qui est enseignement, santé et les services. On peut parler services professionnels, services administratifs, finances, assurances. Donc, faut se rappeler que quand même, ces secteurs-là devraient être plus résilients. Même le tourisme en ce moment, qui a des perspectives un peu plus positives, justement pour l'été qui s'en vient, avec un dollar plus faible,
Oui.
une certaine mouvance vers le tourisme local. Donc, oui, il y a des secteurs, je pense qu'on peut compter sur ces secteurs-là pour solidifier un peu plus. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les effets indirects de cette guerre tarifaire pourrait éventuellement se faire sentir dans le pouvoir d'achat et les dépenses des consommateurs. Parce que
Oui.
quand les consommateurs craignent de perdre leur emploi, ben, souvent c'est pas le moment où on fait des gros achats, acheter une voiture, une maison, des sorties artistiques ou culturelles, restaurants. Donc ça va être à surveiller. Ça va dépendre de l'ampleur des tarifs. Pour l'instant, on pense que ça devrait être assez léger comme effet sur la consommation des ménages, mais c'est
Oui.
un élément à surveiller. Mais je dirais que de façon générale, on a quand même la majorité des secteurs économiques qui ne sont pas touchés directement.
OK. Puis je comprends, on n'a pas ni vous ni moi de boule de cristal, mais c'est quoi votre vision pour les 6 à 12 prochains mois? Si on se projette un petit peu dans le futur, vous pensez qu'il peut arriver quoi? Ou est-ce qu'on a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles? C'est le statu quo. Comment vous voyez ça?
C'est une bonne question. Je dirais que ce qu'il va falloir surveiller, c'est deux éléments. Est-ce qu'il y aura d'autres tarifs d'annoncer et est-ce qu'ils vont viser plus spécifiquement le Canada? On a été heureusement plutôt épargnés le 2
Oui.
avril dernier et on a quand même encore cette exemption, comme je disais, à cause de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Ça, c'est des facteurs qui nous aident en ce moment. Et s'il reste en place, devrait favoriser, disons, un ralentissement qui serait moins prononcé. Donc ça, c'est ce qu'on pense oui, on va avoir de l'instabilité, comment dire, on va avoir une certaine dose d'incertitude qui devrait ralentir l'investissement, la consommation. Mais justement, on pense que ça va durer 6 à 12 mois et non 4 ans. Et qu'on peut s'attendre quand même à une amélioration par la suite en 2026. Mais on va vraiment surveiller ce qui est annoncé du côté américain. Puis, il y aura quand même certains éléments peut-être positifs des mesures gouvernementales qui ont été annoncées, notamment une augmentation des investissements en infrastructure.
Oui.
Ça stimule le côté l'industrie de la construction.
Oui.
Donc ça, ce sont des secteurs là, qui normalement pourraient être plus résilients de par cette aide, ces investissements-là. Donc, je pense qu'il y a des facteurs qui vont aider à traverser la tempête, mais on peut s'attendre toujours à des annonces imprévues,
Oui.
des changements de cap de l'administration. Donc, faut bâtir de la résilience, faut se trouver des stratégies pour réduire notre dépendance
Aux États-Unis, oui.
autant que possible
Oui.
aux États-Unis lorsque c'est possible.
Si vous auriez un conseil à donner à des gestionnaires d'entreprises de camionnage pour les aider, les protéger, aider à passer peut-être au travers d'une mini-récession, de ce qu'on peut en déduire pour le moment, ça serait quoi la règle que vous leur donneriez pour les aider? Couper dépenses, couper le surplus, couper dans le gras, ça serait quoi?
Bien, je dirais que ça, c'est vraiment, quand il est question de stratégie de l'entreprise, je leur conseillerais quand même de consulter leur conseiller, que ce soit avec la Caisse des Jardins des Transports ou leur directeur de compte, parce que ça va dépendre quand même de la situation financière de l'entreprise et de sa stratégie à plus long terme. Je dirais que moi, comme économiste, ce que je peux dire, c'est que il faut pas, même dans les tempêtes économiques, souvent, c'est une bonne idée de ne pas perdre de vue nos objectifs à plus long terme. Donc, oui, il faut traverser la tempête, il va y avoir des choix difficiles à faire, comme vous dites, est-ce que c'est trouver des façons de réduire les coûts? Mais je pense que si on était engagé dans des plans à plus long terme, faut pas les perdre de vue totalement parce que cette crise-là, elle va finir par passer et ceux qui vont sortir gagnants, c'est ceux qui vont avoir maintenu leurs avantages concurrentiels, qui vont avoir quand même misé sur la modernisation, l'efficience, la productivité. Donc, même si ça peut être tentant de mettre sur pause les projets à long terme, essayez d'être stratégique pour maintenir les éléments qui vont vous distinguer. Quand la poussière va retomber,
Ben
disons.
oui.
Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que je conseille quand même
Oui.
aux gens de communiquer avec leur conseiller en caisse pour en discuter davantage.
Normalement, on a passé quelques crises là, dans les dernières années et des récessions aussi. Pas tellement importantes, mais quand même. Ben, on a quand même vu que les prix étaient tous montés à la hausse. Je pense depuis la pandémie, là, on a la réduflation, on a des prix à la hausse. Est-ce qu'après une récession, normalement, les prix rechutent ou ils se tiennent encore très élevés? Puis ce qu'on a d'acquis en réduflation, on va le garder, mais on va peut-être réajuster les prix. Le marché se comporte comment dans ce temps-là?
Bien, faut comprendre que la situation qu'on a connue avec la pandémie et tout de suite au sortir de la pandémie est assez inhabituelle. De l'inflation à 6-7 %, c'est vraiment hors du commun. Puis, c'était vraiment une réaction à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, on ne pense pas retourner à une situation aussi, avec une inflation aussi élevée. L'inflation, c'est vraiment l'augmentation des prix d'une année à l'autre. Et là, on est plutôt dans une zone qui ressemble à la zone cible de la Banque du Canada, qui est une augmentation des prix entre 1 et 3 % par rapport à l'année passée. Donc là, on est autour de 2 %. On pourrait atteindre 2,5, 2,7 % durant l'année, mais pas de l'ordre de 4, 5, 6 et 7 % comme on a déjà vu en 2021, 2022, par exemple. Donc, juste pour rassurer un peu les gens, c'est pas ce à quoi on s'attend. D'une part, parce que quand on parle de récession, de ralentissement, ça a un effet désinflationniste, donc ça a un effet de ralentir la croissance des prix. Donc, ça va tempérer l'effet d'augmentation des prix, ce qui fait en sorte qu'on ne s'attend pas là, à une flambée des prix comme on a vu par le passé. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que l'inflation, c'est quand même une augmentation des prix. Donc, ce qui a été, ce qui a eu lieu, perdure. Donc, l'augmentation passée, on va pas retourner, on va pas voir de la déflation. La déflation, c'est quand les prix baissent. Ouais. Donc, ça, on ne s'attend pas à ça. Ça serait une inflation négative. C'est pas ce à quoi on s'attend. Donc, qui a augmenté, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on ne s'attend pas à une augmentation aussi importante en 2025 et 2026. Donc, ça peut au moins rassurer là, les entreprises qui nous écoutent.
Ben oui, effectivement. Vous l'avez dit tantôt, si jamais il y avait des entreprises qui veulent, disons, un petit peu d'aide ou discuter des enjeux qu'elles ont, elles peuvent se rapporter, ben, si elles font affaire avec le Mouvement Desjardins, à leur succursale locale ou tout simplement pourraient très bien contacter la Caisse Desjardins des Transports. Et parce qu'on est spécialisé dans tout ce qui s'appelle transport, puis ces gens-là là, sont très, très, très proactifs, soit dit en passant. C'est des gens qui sont sur le terrain. Puis si je ne m'abuse, je m'avance un petit peu, là, mais je pense qu'ils sont capables d'aller rencontrer les gestionnaires directement à leur bureau, puis regarder ça ensemble, puis tout ça. Puis après ça, ben, travailler ensemble pour voir un peu plus la lumière au bout du tunnel. Puis des fois, il y a souvent des relations qui se créent et ces relations-là sont là pour perdurer dans le temps et ça aide des fois un gestionnaire. Souvent, les gestionnaires se retrouvent tout seuls. Hein. Ils ont une équipe, il y a un CA, il y a bien du monde, mais des fois, tu sais, le soir à la maison, ouais, comment est-ce qu'on va dealer ça? Bien, de s'asseoir avec des spécialistes qui s'occupent de financement, qui s'occupent de toutes sortes d'autres dossiers, bien, peut-être qu'on pourrait trouver une astuce à tout ça, puis trouver des stratégies ensemble, puis de trouver peut-être même un mode de financement plus facile, puis je dis ça comme ça, là. Il y a des gestionnaires d'entreprises qui m'ont dit que de faire affaire avec la Caisse Desjardins des Transports, c'était bien moins de paperasse, bien plus facile. Naturellement, c'est du cas par cas, là, mais ça a l'air que c'était énormément plus facile. Je lance ça dans l'univers comme ça. Vous savez ce que vous payez des fois en termes d'emprunt et tout ça. Un coup de téléphone, ça coûte pas cher des fois pour connaître un taux, ne serait-ce que de quelques pourcents ou quelques points inférieurs, puis vous avez tout à gagner bien souvent en faisant ça. Donc, le mot de la fin, ça serait de contacter son institution financière ou de parler avec Desjardins Caisse des Transports?
Oui, tout à fait. J'ai leur numéro 514-253-0610. Puis effectivement, ils se déplacent. Ce sont des collègues là, qui connaissent bien le domaine du transport. Ils se déplacent directement dans votre milieu pour vous rencontrer puis voir s'il y a des produits adaptés et qui peuvent vous accompagner avec un accompagnement sur mesure selon les besoins de l'entreprise et des employés.
Oui, effectivement. Madame Florence Jean-Jacob, qui est économiste principale chez le Mouvement Desjardins, merci beaucoup. J'ai tellement appris dans les dernières minutes. Là, j'ai comme suivi un cours d'économie 101.
C'est l'objectif. Ben, merci beaucoup de l'invitation.
Merci beaucoup. On va faire une courte pause ici sur Truck Stop Québec. On va parler avec la mairesse de Bécancour de l'autre côté pour... qu'est-ce qui arrive avec l'autoroute 55? On peut parler aussi peut-être de ce qui se passe des fois. Est-ce que le gouvernement va agir à un moment donné et la doubler pour de bon d'un bout à l'autre? C'est ce qu'on verra de l'autre côté de la pause. Restez là.